106.5.
Soyez les bienvenus, il est midi. Bienvenue, Présence Midi. Nous sommes en direct jusqu'à 13h. La ville de Rome accueille le jubilé des jeunes. Des centaines de milliers de jeunes provenant de 146 pays sont actuellement à Rome. Et parmi ces jeunes, dans un instant, on retrouvera notre envoyé spécial là-bas. Il s'agit de Enzo Basile. Auparavant, un coup d'œil sur le programme de cette émission avec dans quelques minutes coup de cœur en librairie en partenariat avec la librairie du Sanctuaire de Lourdes. Cette semaine, Nicolas Dargegen a sélectionné cet ouvrage, La force du silence, du cardinal Sarat. Cet ouvrage avait paru en 2016 chez Fayard. Et puis on ira également du côté des Pyrénées avec Anne Lasserre, Le regard des écrivains sur les Pyrénées. Retour en 1975 avec un ouvrage écrit par Emmanuel Ladurie. Cet ouvrage a été vendu à plus de 250 000 exemplaires. C'est un livre qui raconte la vie à Montaillou. Montaillou, c'est un petit village qui se trouve en Ariège, qui raconte la vie à Montaillou au 14e siècle. Et puis dans cette émission également, nous irons dans le jardin de Radio Présence avec Annick Baléry et ses causeries vertes. Elle a décidé cette semaine de nous parler des haies, les haies qui favorisent la nidation des oiseaux. Voilà pour les grandes lignes de cette émission, sans oublier à 12h30 l'actualité régionale.
Les podcasts de Radio Présence. Podcast de Radio Présence. Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence. Présence.
Et dans un instant, nous serons en duplex avec notre envoyé spécial à Rome. Il s'agit d'Enzo Basile. Ça sera dans moins de 3 minutes.
Hier encore, la journée du jubilé des jeunes a été placée sous le signe de la prière et du recueillement. Le groupe du diocèse de Cahors, en pèlerinage jubilaire, a franchi la porte sainte de la basilique Saint-Pierre, marquant un moment fort dans leur cheminement spirituel. Et au terme de cette célébration émouvante, nous avons rencontré les membres du CRAV, le Centre de Recherche Anthropologique des Vocations, et pour mieux comprendre leur mission et leur présence ici à Rome, nous les avons interrogés. Au micro, Pauline Bocquien et Sœur Marie de l'Assomption, secrétaire générale du CRAV.
Le CRAV, Centre de Recherche et d'Anthropologie sur les Vocations, a été fondé il y a 5 ans à peu près par le cardinal Ouellet, préfet émérite des évêques, dans le but de provoquer un réveil vocationnel chez tous les baptisés. La devise du CRAV est « tous appelés ». Nous voulons faire comprendre que chaque baptisé est appelé et pas seulement certains à la vie sacerdotale ou à la vie consacrée. Nous avons organisé 2 symposiums, c'est-à-dire 2 grands colloques internationaux en 2022 et 2024. Les 2 ont été ouverts par le pape François. L'un intitulé « Pour une théologie fondamentale du sacerdoce », dont le but, théologie fondamentale, c'est-à-dire les fondements du sacerdoce baptismal. Parce que le sacerdoce le plus important, c'est le baptême qui nous fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois, et qui donne à chaque baptisé une mission dans l'Église et une vocation à accomplir.
Alors les jeunes qui sont présents pour le CRAV sont des volontaires qui vont, là typiquement dans le cadre du jubilé des jeunes, qui vont dans la rue chercher les jeunes pour leur expliquer ce qu'est le CRAV, ce qu'on propose, pour leur rappeler que nous sommes tous appelés à être saints, pour leur expliquer qu'il y a 3 états de vie qui sont complémentaires et nécessaires pour la vie de l'Église, et leur expliquer la beauté de chaque état de vie et leur partager notre programme de témoignages que nous proposons pour les jeunes tout au long de la semaine.
Et hier soir, la communauté de l'Emmanuel Emmanuel a animé une grande veillée de louanges et de prières et nous avons pu interroger certains des participants.
Joie, la bonne humeur, les chants.
Une occasion d'être avec la présence réelle du Seigneur, ce Seigneur auquel on croit depuis, pour certains très récemment, une fois qu'on a tous redécouvert.
Des jeunes qui restent aussi très inspirés par le message du Saint-Père proclamé sur la place Saint-Pierre à l'occasion de la messe d'ouverture du mardi.
Ça inspire aussi de la responsabilité parce qu'il a dit on est le sel de la terre et du coup nous... On doit aussi prendre la relève, quoi. On doit être les prochains à être au devant du monde chrétien, quoi. On est le futur de l'Église.
Une journée intense hier entre recueillement, rencontres et louanges. Et aujourd'hui, un nouveau souffle à travers la culture, les échanges, la fête. Le jubilé 2025 continue d'ouvrir des chemins d'espérance.
Et effectivement, ce jubilé se poursuit. Et maintenant, on retrouve en duplex à Rome, Enzo Basile. Rebonjour, Enzo.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Voilà, cette fois-ci nous sommes en direct, hein, je le disais, la ville de Rome donc, qui accueille le jubilé des jeunes, hein, des jeunes qui viennent de plus de 146 pays. On a donc évoqué la journée d'hier. Quel est le programme d'aujourd'hui? Je crois que c'est direction Saint-Jean-de-Latran.
Oui, effectivement, le groupe se divise en deux. Le diocèse de Cahors va se rendre à la basilique Saint-Jean-de-Latran pour franchir la Porte Sainte, une église particulière hein, pour les Français, puisqu'il y a une grande histoire entre cette basilique et la France. Par exemple, un des exemples notables est notamment le fait que le président de la République soit le chanoine de Latran. Et puis, l'autre partie du groupe, les diocèses de Hoche, Pamiers, Tarbes et Lourdes vont se rendre au lycée français de Rome, au lycée Chateaubriand, pour un festival Ecclesia et Santos, Ecclesia pour les étudiants et Santos pour les jeunes pros, placé sous le signe de la fête, des concerts avec des catéchèses où ils vont pouvoir se retrouver entre Français et pouvoir ainsi dialoguer et cheminer ensemble vers la démarche jubilaire.
Quel est le programme ensuite de la soirée? C'est des soirées en paroisse.
Exactement, retour vers 20h à la paroisse Sainte-Bernadette de Lourdes où nous sommes accueillis, où les paroissiens prévoient une soirée cohésion entre tous les diocèses et leurs paroisses italiennes. Au programme pâtes à la carbonara, chants et jeux, une avant-dernière soirée placée sous le signe de la cohésion.
Voilà, vous l'avez dit, avant-dernière soirée, évidemment vous n'êtes pas tout seul, vous êtes avec énormément de jeunes des diocèses de notre région.
Ouais, effectivement, c'est assez beau hein, ce qui est vécu puisque on voit. Alors, ce qui était très intéressant, c'est que voilà, tous les diocèses de la province de Toulouse, enfin, ce sont trois diocèses de la même province, donc il y a des personnes qui se revoient, qui sont déjà côtoyées, qui se revoient, les prêtres qui se connaissent, donc ça favorise vraiment la cohésion et la bonne ambiance dans ce lieu de camp. Et vraiment, les jeunes sont ravis. On l'a vu ce matin à la messe, une messe très entraînante, très priante. On sent vraiment le besoin des jeunes de se recueillir et de remettre vers le Seigneur leurs besoins.
Alors évidemment, hein, on est en direct pour expliquer un peu les coulisses à nos auditeurs. Voilà, vous étiez à quelques minutes dans le métro à Rome.
Exactement, même je suis toujours hein, dans le métro, alors plus dans la rame, mais sur le quai. Pour avoir une meilleure connexion, c'est assez compliqué de suivre le groupe, d'être pèlerin et en même temps envoyé spécial pour Radio Présence. Mais on tâche à quand même faire en sorte à ce que vous puissiez vivre cet événement, vous qui êtes loin de Rome, entre Toulouse, Lourdes, Cahors et Pamiers.
Et un grand merci à vous, Enzo Basile, envoyé spécial donc à Rome pour suivre ce jubilé des jeunes. Dernière question, quel temps vous avez en ce moment à Rome? Est-ce qu'il fait toujours aussi beau et chaud?
Il fait toujours aussi beau et chaud. Et comme je vous l'ai dit hier, Jonathan Botello m'a donné la mission de ramener le soleil dans la région Midi-Pyrénées. Une mission que je vais essayer d'exécuter jusqu'au bout.
Eh bien, on compte sur vous. Le retour dans notre belle région Occitanie, c'est prévu pour quand? Après-demain?
Non, c'est prévu dimanche. Dimanche dans l'après-midi, le départ de Rome depuis Tor Vergata. Et puis lundi, une arrivée à 17h pour le diocèse de Cahors.
Voilà, un grand merci Enzo Basile. Je rappelle que vous êtes donc notre envoyé spécial à Rome et qu'on vous retrouve tous les jours sur les ondes de Radio Présence. Très belle journée à Rome, Enzo, et à demain.
Merci beaucoup, à demain.
Radio Présence à Lannemezan, 92.2.
Coming for your love, okay, and take on me, take me on, I'll be gone in a day or two. To say I'm
I'm odds and ends, but that's me, I'm stumbling away. Slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on me.
Radio Présence. Retour dans un instant en 1975 avec un ouvrage écrit par Emmanuel Ladurit, un ouvrage qui a été vendu à plus de 250 000 exemplaires. C'est Anne Lasserre qui a sélectionné cet auteur cette semaine. C'est un livre qui raconte la vie à Montaillou. Montaillou, c'est un petit village qui se trouve dans le département de l'Ariège. Ce livre raconte la vie à Montaillou au XIVe siècle. On en parle dans quelques minutes avec Philippe Subercaz et Anne Lasserre.
Vous souhaitez réagir, jouer, communiquer, déposer une intention de prière ? Radio Présence met à votre disposition un serveur vocal au 0892 46 00 12.
34 centimes la minute.
Chaque jour de la semaine et à toute heure de la journée, téléphonez au 0892 46 00 12.
0892 46 00 12.
Le standard des auditeurs. Radio Présence à Toulouse, 97.9.
Bonjour Anne Lasserre.
Bonjour Philippe.
Alors, pour les auditeurs qui étaient avec nous la semaine dernière, et j'espère qu'ils étaient avec nous la semaine dernière, on avait promis que nous allions réviser, mais alors vraiment comme il faut, la machine à remonter le temps, parce que je crois qu'on n'est jamais allé aussi loin que la date que vous avez sélectionnée cette semaine. Alors, vous nous amenez aujourd'hui dans la montagne ariégeoise, à Montaillou, grâce à un ouvrage publié en 1975, ça c'est pas très loin, par Emmanuel Leroy Ladurie.
Et cet ouvrage a connu, dès sa publication, un succès tout à fait inattendu, Philippe. Il est vendu à 250 000 exemplaires, il est traduit en plusieurs langues, même en japonais et en chinois. On se passionne pour la vie à Montaillou au 14e siècle.
Voilà.
J'espère que nous allons pas nous perdre dans le temps, Philippe.
Exactement, parce que le 14e siècle, ça fait un petit peu loin, mais on va voir si notre machine tient le coup. Il faut dire d'ailleurs que cet ouvrage raconte comment on vit à Montaillou, comment on y grandit, comment on y habite, comment on se marie, comment bien sûr on y meurt malheureusement, et comment on conçoit le temps et l'espace.
Le temps n'est pas mesuré comme aujourd'hui. On en a une notion plus vague, on dit il y a un petit ou un grand moment, où on le mesure par rapport aux distances, le temps de parcourir une lieue. Ah. Ça m'a beaucoup plu.
Et oui, parce que nous, aujourd'hui, on a toujours la montre, les choses, alors qu'eux, voilà. Ils vivaient différemment.
Et oui, Nous nous sommes rythmés par les heures, les minutes et les secondes.
Voilà, alors que eh bien, le rythme du temps était donné par les saisons. On dit que c'était au temps des vendanges ou c'était quand les ornes portent des feuilles.
C'est pour cela, Philippe, que ce livre est passionnant parce qu'il nous fait vivre dans une autre époque.
Voilà, et j'espère que les auditeurs eh bien, aussi profitent un peu de tout ça et certains doivent se souvenir de certains, sûrement des passages, voire même peut-être que certains sont nostalgiques et ont peut-être la larme à l'œil. Hein. On pense à eux.
Et oui, c'est possible.
Ah oui, sûrement. Alors, Anne, vous avez choisi de présenter les premières pages du livre, c'est-à-dire la présentation du village de Montaillou. On vous écoute.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
En 1975, paraît un ouvrage qui connaît un grand succès. Montaillou, village occitan. Son auteur n'est autre qu'Emmanuel Leroy-Ladurie, professeur au Collège de France. Il est alors une figure emblématique de la nouvelle histoire, qui est avant tout l'histoire des mentalités. Dans cet ouvrage, il reconstitue la vie d'un village de l'Ariège au XIVe siècle, qu'il présente ainsi dans les premières pages. Aux sources de l'Ers, le pays d'Aillon est un beau plateau entouré de pâturages et de forêts. Le village de Montaillou, qui domine ce plateau, forme lui-même une construction étagée. Au sommet de la butte, à laquelle s'accroche en 1320 la communauté, sévit le château qui n'est plus aujourd'hui que ruine imposante. En dessous s'étagent les maisons, souvent contiguës, séparées parfois les unes des autres par de petits jardins où s'ébattent illégalement les porcs, par des cours et par des aires à battre. L'agglomération elle-même n'est pas fortifiée. On peut toujours, en cas de péril, se réfugier plus haut, derrière les remparts de la forteresse. Cependant, les maisons du contrebas se serrent suffisamment les unes contre les autres pour que leur rebord extérieur, en aval, forme une défense naturelle, trouée d'une entrée qu'on appelle portail. La rue, recourbée au XIVe siècle comme aujourd'hui, descend vers l'église paroissiale, sise en dessous de l'habitat. À un niveau encore inférieur, on trouve la chapelle de la Vierge. Le cimetière local flanque ce bas sanctuaire dédié à la Mère de Dieu. Les deux lieux de culte sont en partie au moins de style roman et antérieurs à 1300. Les environs immédiats de Montaillou forment, à l'époque que nous envisageons, un damier de parcelles grosso modo rectangulaires. Chacune d'entre elles ne contient qu'une fraction d'hectare, de l'ordre de 20 à 30 ares. Les exploitations agricoles du lieu possèdent respectivement un certain nombre de ces parcelles, champs et prairies, dispersées à travers le terroir. On les cultive avec des arrières, eux-mêmes traînés par des bœufs, vaches, mules ou ânes. Des rideaux de terre, soulignés fortement par les chutes de neige en saison froide, séparent ces lopins les uns des autres. On y produit des grains, avoine et froment, plutôt corge et seigle. Ils suffisent tout juste, à cause des rigueurs du climat, pour la subsistance des paroissiens. Encore faut-il compter avec les années déficitaires. Les cultivateurs des années 1300 produisent aussi des raves. Il y a peut-être des ferrages, autrement dit des céréales destinées à être coupées en verre pour la nourriture des animaux. Il y a sûrement du chanvre cultivé dans les précieuses chènevières. Les femmes se chargent de le tailler, de le peigner pendant l'époque hivernale. Quant au lin, sa présence même à cette altitude paraît pour le moins probable si l'on en croit la toponymie de l'époque. Le bétail comprend, outre les animaux de traction et de bât, bœufs, vaches, ânes, mules, des porcs domestiques, de la volaille en basse-cour, des poules et des oies, et bien sûr des centaines de moutons, sans compter les milliers de têtes ovines que les Montalionnais des années 1310, grands bergers de transhumance, guident bon an, mal an, parmi les pâtures d'hivernage du Lauragais et de Catalogne. Faut-il ajouter, pour en revenir aux équins et aux bovins,
que le village ignore la roue comme instrument de traction et de transport. Il y a des arrières, mais pas de charrues ni de charrettes. Celles-ci ne roulent que dans le bas pays ou dans la vallée de l'Ariège. Une division du travail, selon l'âge et le sexe, permet l'exécution des travaux. L'homme laboure, coupe les grains, cueille les raves, s'en va chasser, pêcher aussi, car les torrents regorgent de truites. Les forêts grouillent d'écureuils et de coqs de bruyère. L'enfant déjà grand garde le troupeau paternel. La femme prend soin de l'eau, du feu, du jardin, des fagots et de la cuisine. Elle cueille les choux, sarcle les blés, lie les gerbes, répare le vent. Lave les pots à la fontaine, part aux moissons, avec un pain sur la tête en compagnie des migrants. Elle est, surtout dans sa jeunesse, durement menée. L'exploitation agricole est centrée sur la maison, dont une partie, séparée par une cloison, est réservée à la stabulation des bêtes. Moutons non transhumants, bœufs, porcs, mules, en hiver, viennent s'y entasser entre quatre murs, à proximité des chambres et de la cuisine de leur maître. Il arrive aussi chez les riches qu'un bâtiment spécialisé, bergerie ou étable, isolé par une cour de l'habitat humain, soit disposé à part pour cette fonction. Quand il écrivait Montaillou, village occitan de 1294 à 1324, Emmanuel le roi Ladurie ne se doutait certainement pas que son ouvrage attirerait autant de lecteurs. Ce fut un réel succès. L'ouvrage a été publié par les éditions Gallimard en 1975.
Voilà, Anne, comment on vivait à Montaillou, en Ariège, à 1300 mètres d'altitude, il y a exactement 8 siècles.
Montaillou comptait alors 250 habitants. C'était une petite communauté de montagnards et de bergers.
Et sur ces terres difficiles à cultiver, au climat rude, les instruments agricoles sont rustiques. Il n'y avait pas la roue, comme le dit l'auteur, donc pas de charrette ni de charrue.
Il n'y en a pas effectivement à Montaillou qui est perché à 1300 mètres d'altitude, mais il y en a en plaine. À Montaillou, bien sûr, beaucoup de transports se font à dos d'homme. Et on imagine aisément à quel point la vie devait être dure et consacrée uniquement à divers travaux. On était loin, Philippe, de la société des loisirs.
C'est sûr que les pauvres, oui, on reste guère inoccupés à l'époque. Et les femmes, par exemple, filent à la veillée, qu'elles soient chez elles ou chez quelqu'un.
Et elles filent même, Philippe, quand elles sont en prison, enfermées par un inquisiteur, car on est en région cathare, et c'est l'époque de l'Inquisition.
Ce sont aussi les femmes qui charriaient l'eau dans une jarre qu'elles portaient sur leur tête. Voilà,
oui.
Mais c'est incroyable. La semaine prochaine, vous nous amenez dans les Pyrénées grâce à un livre écrit par Nanou Saint-Leb.
Oui.
Alors, livre qui a pour titre « Les femmes à la découverte des Pyrénées ». Ah ben, elles sont à l'honneur aussi, à l'époque, les hommes. Voilà. On va les mettre,
Philippe,
à l'honneur, les femmes. Exactement. Merci infiniment, Anne Lasserre. Encore mille merci pour tout ce travail. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Philippe.
Merci à Philippe Subercaz et donc à Anne Lasserre. La suite de cette émission, dans un instant, direction la librairie du Sanctuaire de Lourdes avec Nicolas d'Argène. Coup de cœur en librairie cette semaine. Nicolas a sélectionné cet ouvrage, La force du silence, écrit par le cardinal Sarat et paru en 2016 chez Fayard. On en parle dans un instant, mais auparavant, on fait un point sur l'actualité régionale avec Carla Ponce de l'école de journalisme de Blagnac.
Bonjour à tous. Les punaises du colza prolifèrent en Haute-Garonne, notamment à cause de la chaleur et de la végétation sèche. Inoffensives pour l'homme, elles n'en sont pas moins très envahissantes. Abusées sur Tagne, Corrence ou encore Pinjustaré, elles s'agglutinent par centaines sur les façades et s'introduisent dans les habitations. Plusieurs maires alertent face à ce phénomène devenu récurrent. Pour s'en débarrasser, l'Agence régionale de santé recommande des solutions naturelles, de l'eau, du savon noir, mais pas d'insecticides, jugés inefficaces et nocifs pour l'environnement. À La Roque-d'Olmes, la colère monte face à une hausse brutale du prix de l'eau. Le mètre cube va passer de 2,30 à 3,70 centimes d'euros, soit plus de 60% d'augmentation. Une décision jugée inacceptable par le maire Patrick Lafont, qui dénonce une gestion opaque. Et le conflit entre deux syndicats, le SAPO et la SMEDA, dans une commune marquée par la précarité, cette hausse est vécue comme une injustice. Le maire appelle à une médiation d'urgence et alerte. Ce sont les habitants qui paieront le prix fort de cette gouvernance chaotique. En Aveyron, la future passerelle de Saint-Parterre fait débat. D'un coût d'1,34 million d'euros, cet ouvrage de 182 mètres réservé aux piétons et cyclistes doit relier les deux rives du Lot. Porté par Decazeville Communauté, le projet vise à développer les mobilités douces et le tourisme local. Mais son prix élevé divise. Plusieurs habitants et élus dénoncent une dépense disproportionnée pour un aménagement jugé peu prioritaire. L'ouverture est prévue au printemps 2026. À Condon, dans le Gers, les marcheurs peuvent désormais profiter d'un nouveau sentier balisé. Le club local de randonnée a achevé le tracé de la boucle La Mémoire des Pierres, un itinéraire de 85 km inscrit dans le GR de Pays Tour d'Armagnac. Reliant plusieurs chemins de grande randonnée, le parcours démarre à la gare routière de Condon et traverse la place Saint-Pierre jusqu'au pont de la Gelle. Un jalon installé par le département marque l'intersection avec la célèbre GR65 vers Compostelle, de quoi ravir randonneurs et pèlerins. Loudainville, dans les Hautes-Pyrénées, fait partie du top 10 national des aires de camping-car les plus fréquentées en 2025, selon le réseau Camping Car Parc. Ce village de la vallée du Louron a enregistré plus de 5500 nuitées. Situé face au lac de Génos-Loudainville, à deux pas des remontées de Péragude, l'aire attire les touristes toute l'année. Le passage du Tour de France ou encore les conditions de VTT contribuent à ce succès. Une belle vitrine pour ce village pyrénéen de moins de 1000 habitants. Et enfin, le roi Frédéric du Danemark a passé quelques jours de vacances discrètes dans le Lot, au château de Caïx, propriété familiale héritée du prince Henrik. Accompagné de la reine Marie et de deux de leurs enfants, le roi a profité de la quiétude lotoise avant de repartir vers Copenhague. La reine Margaret II, aujourd'hui abdiquée, est quant à elle entendue en août au marché de Cahors, où elle a ses habitudes estivales.
Merci Carla Ponce de l'école de journalisme de Blagnac. Un prochain point sur l'actualité à 13h avec l'information nationale et internationale. Dans les prochaines minutes, on va faire un détour par le jardin de Radio Présence avec notre spécialiste maison. C'est bien entendu Annick Baléry qu'on retrouve avec grand plaisir chaque semaine. Cette semaine, elle a décidé de nous parler des haies. Ça sera au micro de Philippe Subercaz. Pour auparavant, un détour par la librairie du Sanctuaire de Lourdes avec Nicolas D'Argogène. Coup de cœur en librairie.
Présence à Saint-Cirq-la-Popie, 92.5.
Le livre que je vous présente aujourd'hui est devenu en quelques années un classique de la spiritualité. Il s'agit de La force du silence, écrit par le cardinal Robert Sarah avec Nicolas Diat, paru en 2016 aux éditions Fayard et depuis édité en édition de poche. On ne présente plus son auteur, le cardinal Sarah. Ce prêtre guinéen qui aura 80 ans cette année a été archevêque de Conakry. En 2010, il est créé cardinal par Benoît XVI et assure la fonction de préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements de 2014 à 2021. Dans une époque de plus en plus bruyante, alors que la technique et les biens matériels ne cessent d'étendre leur emprise, c'est certainement une gageure que de vouloir écrire un livre consacré au silence. Écrire un livre sur le silence, c'est une idée un peu incongrue. En effet, pour parler du silence, ne vaudrait-il pas mieux un livre aux pages blanches ? Eh bien non, justement, car le silence, il faut apprendre à le faire, apprendre à le vivre. Nous vivons une époque de plus en plus bruyante et nous devons lutter, comme le dit le sous-titre du livre, contre la dictature du bruit. Et pourquoi retrouver le silence ? C'est tout simplement parce que Dieu est dans le silence et que nous avons besoin de le retrouver. Le cardinal Sarah l'écrit lui-même, « Sans le silence, Dieu disparaît dans le bruit. Et ce bruit devient d'autant plus obsédant que Dieu est absent. » Si le monde ne redécouvre pas le silence, il est perdu. La terre s'engouffre alors dans le néant. Voilà la grande question que pose le cardinal Sarah. Les hommes qui ne connaissent pas le silence peuvent-ils jamais atteindre la vérité, la beauté et l'amour? La réponse est sans appel. Tout ce qui est grand et créateur est formé de du silence, et Dieu est silence. Il nous faut donc apprendre à combattre le bruit du monde. Et comment le combattre? Eh bien simplement en faisant silence. Car c'est dans le silence que nous allons trouver Dieu. Comme le dit le cardinal Sarah, au cœur de l'homme, il y a un silence inné. Car Dieu demeure au plus intime de chaque personne. Dieu est silence, et ce silence divin habite l'homme. En Dieu, nous sommes inséparablement liés au silence. Dieu est silencieux. Si nous voulons le découvrir, si nous voulons le rencontrer, le cardinal Sarah le dit bien, il nous faut apprendre à être silencieux, car il n'y a pas d'autre voie pour aller vers Dieu que de passer par le silence. Le monde d'aujourd'hui nous drogue de bruit, nous remplit l'esprit de bruit, et plus nous sommes dans un environnement toujours plus bruyant, et plus nous nous enfermons dans le bruit, et plus nous nous éloignons de Dieu, car Dieu n'est pas dans le bruit. Le silence est vital pour notre propre bien. Si je veux me reposer, j'ai besoin de silence. Si je veux lire un livre, j'ai besoin de silence. Si je veux écouter de la musique, si je veux réfléchir, si je veux parler à l'autre, j'ai besoin de silence. Le silence est indispensable, vital pour notre relation au monde et aux autres, et notre relation à Dieu. Le silence est un combat. Pour vaincre ce combat, il faut d'abord se battre avec nous-mêmes, avec notre désir d'être dans le bruit. Le silence est un combat de chaque jour. Le Christ est celui qui nous conduit. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Donc il faut savoir l'écouter pour savoir où aller, et pour l'écouter, il faut faire silence. Le silence, il faut savoir l'écouter. Paul Valéry disait « Entends ce bruit fin qui est continu et qui est le silence. Écoute ce qu'on entend lorsque rien ne se fait entendre. » Oui, il faut faire silence pour l'écouter. Et cependant, Dieu, et c'est là que c'est paradoxal, mais Dieu va nous parler par le silence. Le cardinal Sarah l'écrit lui-même « Beaucoup de nos contemporains ne peuvent accepter le silence de Dieu. » Ils n'admettent pas qu'il soit possible d'entrer en communication autrement que par des paroles, des gestes ou des actions concrètes ou visibles. Or Dieu parle par son silence. Le silence de Dieu est une parole, son verbe est solitude. Dieu agit par le silence, il est toujours présent à nos côtés. Le cardinal le dit lui-même, Dieu est un ami discret qui vient partager nos joies, nos peines et larmes, sans rien attendre en retour. Il faut croire en cette amitié. Le beau et important message de cet ouvrage, c'est que si la parole caractérise l'homme, alors c'est le silence qui définit l'homme. Comme l'écrit le cardinal Sarah, la parole ne prend de sens qu'en fonction de ce silence. Voilà le beau et important message de cet ouvrage. Ce livre est une véritable méditation spirituelle sur le silence, car il est temps pour les hommes de retrouver l'ordre des priorités. Il est temps de remettre Dieu au centre de nos préoccupations, au centre de nos actions, de nos vies, c'est-à-dire la seule place qu'il doit occuper. Nous devons retrouver le sens de Dieu. Or, le silence est la seule façon de s'approcher de notre Dieu. Le silence n'est pas une notion abstraite, c'est réellement la voie qui nous permet à nous, hommes, d'aller à Dieu. Dieu est silence et le diable, lui, est bruyant. Satan cherche à masquer ses mensonges sous une agitation trompeuse et sonore. Le chrétien doit donc se détourner des bruits du monde, de ces rumeurs qui nous détournent de l'essentiel, Dieu. Notre société peut considérer l'homme silencieux comme un faible, comme celui qui ne sait pas se défendre, un sous-homme écrasé par l'autre dans les flots de ses discours. Voilà pourquoi on s'en prend aux silencieux, comme le montrent les crimes abominables contre ceux qui sont silencieux, les enfants non-nés, les malades ou les personnes en fin de vie, bref, les plus fragiles. Le cardinal Sarah les qualifie de prophètes magnifiques du silence. Justement, par les questions que lui pose Nicolas Diat, le cardinal Sarah répond à la question que nous pouvons tous nous poser sur Dieu et le silence, ou plutôt la raison du silence de Dieu. Comment l'expliquer face au drame, au mal? Pourquoi Dieu reste-t-il silencieux dans ces moments-là? Il explique que Dieu ne veut pas le mal, que Dieu a sa façon mystérieuse d'être proche de nous dans les épreuves. Dieu est intensément présent dans nos épreuves et dans nos souffrances. Sa force se fait silencieuse parce qu'elle révèle son infinie délicatesse, sa tendresse pour ceux qui souffrent. Le silence révèle la compassion, la part que Dieu prend à nos souffrances. Avec Jésus, nous portons mieux nos souffrances et nos épreuves. Un des plus beaux exemples que nous propose l'Écriture, c'est Marie. En effet, sa vie entière est baignée de silence. Comme l'écrit le cardinal, Marie est entièrement absorbée par la contemplation, l'adoration et la prière. Elle se cache en son Fils, elle n'existe que pour son Fils, elle disparaît dans son Fils. Marie est présente dans la vie publique du Christ, mais elle est silencieuse, à l'écoute de son Fils. Ce livre est un véritable trésor qui nous permet de réfléchir aux besoins de silence dans notre vie. Comment Dieu va-t-il pouvoir me parler si je ne fais pas silence ? Car celui qui fait du bruit rencontrera difficilement Dieu, car Dieu est silencieux. Dieu vit dans le silence. La demeure de Dieu est le silence. La force du silence contre la dictature du bruit, par le cardinal Robert Sarah en collaboration avec Nicolas Diat, édité chez Fayard en 2016, est disponible à la librairie de la Grotte du Sanctuaire et dans toutes les librairies.
Et un grand merci à Nicolas Dergeogène. Voilà, coup de cœur en librairie cette semaine, La force du silence, vous l'avez entendu, écrit par le cardinal Sarat, paru en 2016 chez Fayard. Après être passé par la librairie du Sanctuaire de Lourdes, direction le jardin de Radio Présence avec les causeries vertes, Annick Baléry et Philippe Subercaz en parlent cette semaine des haies.
Radio Présence à Gourdon, 104.8.
Bonjour Annick Baléry.
Bonjour Philippe Supercaz.
Quel plaisir. Voilà, alors vous êtes arrivé avec plein de couleurs magnifiques, avec un peu de mauve, du noir, du bleu. Vous êtes, mais,
oui, j'ai mis mon collier de princesse. C'est dommage que les auditeurs ne puissent pas en profiter.
Exactement. Vous avez un très beau collier. Et mais ça, c'est que pour moi. Voilà, voilà. Ouais. Et on est tranquillement dans notre studio. Et on a décidé de parler cette semaine, puisqu'on parle de nature avec vous, bien sûr. On va parler de ces haies qui favorisent les oiseaux. Voilà. Et alors, c'est vrai que ces pauvres haies ont beaucoup disparu. On les avait chez le particulier, qui sont souvent remplacés par des murs ou par des brise-vues, du grillage avec un brise-vue. Les agriculteurs aussi en ont supprimé pas mal, parce que c'est vrai que la délimitation des champs se faisait souvent par des haies qui ont disparu. Alors, tout ça, ça ne favorise pas ces pauvres oiseaux.
Voilà, il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que les haies ont disparu. Déjà, il y a eu le remembrement en France qui a éliminé les limites qu'il y avait entre des petites parcelles. Et si on veut se souvenir à quoi ça pouvait ressembler, et il faut survoler l'Angleterre. Alors, je sais, c'est très chic. Peut-être qu'une photo aérienne, ça fera le
on
même
doit
effet.
Trouver ça, oui.
Voilà. Mais moi, ça m'avait frappé de voir effectivement toutes ces petites parcelles. On aurait dit vraiment un patchwork qui était tout entouré de haies. Et c'est dont on commence à toucher du doigt les bénéfices, c'est-à-dire que ça évite le ravinement des sols. Ça permet à l'eau de pénétrer profondément dans la terre. Ça génère aussi quelques ombrages qui peuvent être intéressants. Ça sert de refuge aux oiseaux qui, du coup, consomment les insectes qu'on n'est pas obligé de traiter. Et voilà. Mais bon, c'était une autre époque. C'était le lendemain de la guerre. Il fallait produire. On a fait venir beaucoup de machines américaines qui étaient quand même surdimensionnées par rapport à nos petites parcelles et qui avaient besoin de place pour travailler, pour tourner. Donc voilà, ça, il y a eu un gros bouleversement. Il faut savoir quand même que certaines communes se remettent à planter des haies. Et ça, c'est tout à fait louable. J'ai eu l'occasion de voir ça cet été. C'est souvent fait dans ce qu'on appelle les plantations participatives, c'est-à-dire que les communes font aussi participer les enfants des écoles et les collégiens. Et chaque année, on a des programmes de plantation de haies pour augmenter le maillage des haies sur les communes. C'est tout à fait intéressant, avec des choses qui sont diversifiées. Donc là, on oublie le thuya et le laurier-thym qui ont fait beaucoup de dégâts dans les lotissements. Alors, c'est tout à l'heure, vous parliez des gens qui, de plus en plus, remplacent les haies par des murs ou par des grillages. Le fait est que ces haies qu'on a plantées dans un premier temps, un peu par ignorance, parce qu'on passait d'un appartement à une maison particulière, et que, bon, on s'est tourné dans les jardineries vers le conseil qui existait, c'est-à-dire à l'époque, bon, on vous conseillait le thuya et la laurière parce que ça poussait vite et puis que c'est vrai que c'était une mise de fonds qui était réduite, hein, ça ne coûtait pas cher. Les gens qui les ont plantés chez eux ont eu très vite des regrets parce que ça pousse énormément. Un thuya, c'est un arbre, je dis bien, qui est fait pour mesurer 35 mètres de haut. Donc, ouais. Je vous dis pas la course de vitesse. Voilà. Alors, dans un premier temps, c'est vrai qu'on avait quelque chose de satisfaisant, hein, un genre de mur vert. Bon, pour lequel faire un chemin, moi, j'ai pas beaucoup d'affection, mais on peut aimer, on a le droit. Et puis rapidement, on se retrouvait dépassé par sa création parce qu'il fallait élaguer sans arrêt. Les voisins se plaignaient que la haie faisait coucou de l'autre côté. Enfin, c'est une bataille qui est de toute façon perdue d'avance. Et ce qui fait qu'après, on se retrouve avec des haies vieillissantes qui se déplument depuis en bas et qui tombent malades parce que c'est des arbres, à force de les tailler, ils souffrent. Hein, voilà. Un système racinaire qui ne trouve pas toujours ni à manger ni à boire, et donc des haies qui dépérissent. Et donc, voilà, après, la solution suivante, c'était l'arrachage, ce qui se passait pas sans mal, parce qu'il y a vraiment un énorme système racinaire.
Oui.
Et voilà.
C'est du travail après aussi.
C'est du travail après, voilà. Ouais. Et si on arrivait quand même à la maintenir, ça, quand on en est tous là, quand on vieillit, ça devient insupportable, parce que ça demande énormément de travail, voilà.
C'est une coupe une fois, voire deux fois par an, hein, si on veut avoir quelque chose de correct.
Normalement, tout ce qui est persistant se taille dans les mois en A. Alors, on connaissait les mois en R pour les huîtres. Pour les persistants, c'est les mois en A, donc avril et août. Ouais. Sachant quand même qu'au mois d'avril, si vous vous affairez sur la haie, peut-être que vous allez déranger les couvées qui sont à l'intérieur. Il faut surveiller. Voilà. Donc,
Sortons donc de ces deux, le touya et... Et le deuxième qui était le touya.
Et le laurier.
Le laurier.
La laurière, ce qu'on appelle la laurière, le laurier palmé.
Qu'est-ce qu'il faudrait privilégier donc, comme haie qui va favoriser les oiseaux?
Alors, déjà, il faut admettre qu'une haie, ça n'a pas toujours à être persistant. Alors, on a le droit. Hein,
C'est vrai que dans les maisons d'habitation, ce qu'on souhaite dans une haie, c'est un brise-vue. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, que le voisin ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur.
Alors, quand vous avez une haie qui tombe les feuilles à l'automne, déjà, vous avez une espèce de brouillage qui est fait par la structure. Hein, c'est un peu comme quand on met un rideau à la fenêtre. Hein, c'est pas opaque. Hein. Et puis, il faut dire aussi qu'en hiver, on n'est pas tous les jours en maillot dans son jardin. Hein. Donc, si on veut bien réfléchir, est-ce qu'on a besoin d'être aussi masqué en hiver? C'est pas sûr. D'autant que quand vous avez une haie persistante, toute la base de la haie va être une zone qui va être froide. Puisque si le soleil est de l'autre côté de la haie, toute l'ombre portée de la haie qui va être importante, puisque le soleil est bas, c'est une zone qui va, si ça se trouve, ne pas dégeler de la journée. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Voilà.
Oui, il y a aussi cette notion-là, oui, tout à fait.
Et puis, on a l'impression qu'une haie très très dense ou un mur, ça protège davantage. Il faut savoir que si vous avez du vent qui souffle, à travers une haie qui est un peu dégarnie, le vent va être filtré, il va passer horizontalement. S'il est derrière une haie très dense ou derrière un mur, le vent va monter, il va redescendre et il va faire un tourbillon derrière le mur, c'est-à-dire une zone désagréable finalement.
D'accord.
Donc voilà, c'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours. Et puis voilà, en mettant un mur, vous privez les petits oiseaux de refuge et... Donc on a tous notre part de responsabilité. Oui. Après on fait les choix qu'on veut, mais on ne peut pas à la fois déplorer le départ des insectes et des oiseaux et
faire des murs en parpaing ou en...
On peut, mais alors il faut leur offrir d'autres refuges dans le jardin. C'est intéressant.
Et alors quels sont les plus intéressants pour les oiseaux?
Alors moi, je vous ai sélectionné un certain nombre.
J'imagine.
Et donc, les haies avec des fruits déjà, mais vous avez des oiseaux qui vont manger des fruits et d'autres qui vont plutôt être spécialisés dans les insectes. Mais voilà, donc des haies qui vont servir de refuge. Alors ça peut être parce que c'est un peu épineux, mais ce n'est pas une obligation. Hein. Et donc, ils vont permettre de faire des nids, hein, de se réfugier. Et puis, qui vont produire des fruits qui vont être comestibles pour nous ou pas. Et puis, je vous ai aussi sélectionné quelques sujets qui peuvent être des arbres qu'on installe sur la pelouse aussi, qui ont un aspect décoratif. Et qui vont permettre aux oiseaux d'avoir de la nourriture en hiver, par exemple. On peut peut-être commencer par ça.
Si vous voulez, bien sûr.
Voilà. Donc, le grand classique que vous connaissez tous, c'est le sorbier des oiseleurs, hein, vu le nom. C'est ces arbres qu'on voit en montagne qui ont une croissance quand même assez lente.
Le sorbier
des oiseleurs. Un feuillage clair et puis à l'automne, des grappes de fruits magnifiques, en général d'un rouge corail très, très décoratif. Bon, c'est le genre d'arbre quand même que je vous conseillerais plutôt si vous êtes dans un jardin de montagne et un jardin frais. Ça ne supporte pas vraiment une sécheresse de l'air importante. Mais c'est vraiment un très très bel arbre d'ornement. Et sachez qu'il existe des variétés décoratives. J'ai vu en particulier une variété qui s'appelle chamois glau, qui a des baies, donc chamois. Et ça fait vraiment... parc de château, et c'est très très chic.
C'est très très beau. Alors, non, on voit toutes ces grappes de petites boules rouges.
Voilà, avec un feuillage assez clair, et ça va vous offrir le spectacle tout l'hiver, parce que tous les oiseaux vont venir grappiller à tour de rôle, et ça peut être intéressant. Si vous rajoutez en plus une boule de graisse avec quelques graines, ça, voilà, le spectacle sera complet.
Ah oui.
Vous aurez les granivores, les fruits.
On s'en sert, parce que ça ressemble comme un arbre, on s'en sert pour faire une haie.
Alors là, je vous parlais de sujets isolés.
Isolé, ouais.
Alors une haie, ça peut être aussi une haie avec des arbres. Hein. Ça dépend de la place dont on dispose. Nous, on raisonne souvent en termes de haie, de lotissement. Mais il y a des gens qui ont des terrains suffisamment grands pour que la haie comporte quelques arbres.
Ah oui, parce que là, c'est un bel arbre quand il est grand.
Voilà. Dans les sujets isolés aussi, qu'on peut mettre donc soit sur la pelouse, soit dans une haie qui va être importante à la campagne, vous avez aussi les pommiers d'ornement qui sont sympathiques. Alors les pommiers d'ornement qu'on utilise de plus en plus dans les villes, hein, mais qu'on voit, moi j'en ai vu il y a pas longtemps, en bordure de supermarché. Donc c'est des arbres qui deviennent un peu classiques et qui sont intéressants parce qu'en plus ils peuvent servir de pollinisateurs quand vous avez des pommiers cultivés. Donc les abeilles s'affairent dessus, déjà un bon point, vous faites le bonheur des abeilles. Et ensuite à l'automne, vous avez des petites pommes qui sont suspendues. Alors celui qui est le plus connu, c'est celui qui s'appelle Everest. C'est un pommier avec des petites pommes à queue longue qui sont rouges, qui sont magnifiques. Everest, donc qui reste longtemps. Et je pense qu'il a été développé par l'INRA, celui-là. Et un autre que je pourrais vous conseiller qui s'appelle Golden Hornet. Alors Golden Hornet, on peut faire de la marmelade avec, de la gelée de pommes. Il est jaune et la pomme reste longtemps sur l'arbre et est consommée par les oiseaux. Dans des choses qui sont aussi encore valables pour des sujets isolés, il y a ce que l'on appelle les cormiers, qui en fait sont des sorbiers. Et alors ça, c'est un arbre qui conviendrait de développer, parce que c'était des arbres qui étaient cultivés avant, qui sont en voie de disparition, parce que plus personne ne les connaît. Les cormes, c'était consommé par les humains. Hein. C'était des... Alors on appelle ça Sorbus domestica, donc un peu de la famille des sorbiers, et ça fait des espèces de petites pommes. Et c'était des arbres qui étaient intéressants, donc on peut éventuellement planter dans une haie arbustive aussi. Et en plus, on fera une bonne action parce qu'on permettra de conserver ces variétés qui disparaissent. Alors pour du plus classique quand même, parce que bon, je vois les gens qui s'impatientent. Voilà, vous avez le pyracantham, alors c'est redoutable, ça est, je vous le donne à titre anecdotique, mais alors là, par contre, si vous avez une haie de pyracantham, les oiseaux seront contents et puis les chats seront tenus à bonne distance parce que c'est particulièrement épineux.
D'accord.
Par contre, il faut s'habiller en cosmonaute le jour où on veut tailler la haie parce que c'est vraiment très, très agressif. Vous avez les houx aussi qui sont intéressants parce que les houx qui ont un bois très très dur, qui peuvent faire des sujets très vieux, mais bon, qui poussent quand même lentement. On connaît des houx qui ont des centaines d'années. Alors le houx femelle est le seul à porter des baies. Donc quand vous achetez, soit vous achetez à l'automne, vous êtes sûr que vous avez des baies. Soit il faut être vraiment en confiance avec son pépiniériste. Avec des baies. Donc, vous en avez de toutes sortes. Vous en avez avec des feuilles piquantes, mais pas que. Hein. Vous avez un houx actuellement qui est en train de prendre qui est la place du buis, parce qu'il lui ressemble pas mal, qui s'appelle le houx crenata, Ilex crenata. Donc, il y a vraiment beaucoup de variétés chez les houx. Il y a du panaché, il y a du vert, toutes sortes de feuilles très piquantes. Il y en a un qui s'appelle Férox, si je me rappelle bien. Il porte bien son nom. Voilà. Donc ça sert de refuge. Il faut savoir que quand les houx étaient de grande taille, ils ont un bois qui est extrêmement dense et ça servait à faire des gourdins au Moyen-Âge. Quand on voulait estourbir l'ennemi, on prenait du bois de houx. Alors dans les bois justement qui étaient utilisés et que vous pouvez peut-être utiliser vous aussi, il y a le cornouiller. Alors mâle, pourquoi mâle, je ne sais pas trop. Cornus mas. Et Cornus mas, il a un bois qui est extrêmement dur, tellement dur que quand vous le taillez, il faut le tailler en juillet et pas après parce que c'est costaud. Et alors ça, pour faire des manches d'outils, c'est absolument extraordinaire. C'était des haies aussi qui servaient de réserve pour faire d'autres choses. Hein. On avait les arbres, bon, quand on avait de la place, des arbres qui donnaient du fourrage, des plantes qui servaient à faire des manches d'outils ou des gourdins, voilà. Alors une plante aussi, un arbuste qui va avoir un développement différent suivant ce qu'il aura à manger. Moi j'ai connu ça dans le midi chez mon grand-père, ça supporte vraiment tout. Alors ça pour le coup c'est un persistant, ça va faire le bonheur de tous les gens qui aiment bien les denses. C'est le laurier-thym. Alors en fait c'est une viorne, hein. ça s'appelle Viburnum tinus. Et ça, c'est remarquable parce que vous avez une floraison qui est très tardive et vous avez des tout petits fruits qui ressembleraient à des plombs un peu bleus.
Ouais.
Et moi, je m'en servais pour les dinettes quand j'étais petite, j'adorais ça.
C'est pas comestible, hein ?
Non, c'est pas comestible, mais c'est très très joli. Et donc, vous avez à la fois des fleurs en petites grappes blanches et des fruits sur l'arbre. La floraison est donc est automnale, si je me rappelle bien, et c'est vraiment très très beau. Feuillage vert foncé, je trouve que c'est quelque chose à essayer. Allez sur vos tablettes ou dans vos pépinières et regardez à quoi ça ressemble. En plus, si je me souviens bien, c'est pas très cher, c'est quelque chose qui est utilisé depuis longtemps. Le mahonia que vous connaissez, à mélanger avec d'autres choses, bien entendu. Le mahonia qui fait des grandes feuilles un petit peu épineuses qui ressembleraient à des feuilles de houx géantes et qui fait une fructification bleue en hiver à grandes grappes qui fleurit très tard et dont la floraison jaune en grappes sans le muguet.
Sans le muguet ?
Oui.
D'accord.
Voilà. On en a dans les parterres très souvent. C'est une floraison d'hiver en fait. Hein, et après, lui succède une grosse grappe de boules plutôt noires hein, et que les oiseaux apprécient. Les aubépines aussi. Alors les aubépines et les pruneliers qui étaient traditionnellement dans les haies. Alors les aubépines qu'on a un petit peu éliminées. Des choses à planter dans les haies parce qu'elles ont été à une époque porteuses du feu bactérien qui heureusement a été éliminé et donc toutes les aubépines ornementales qui existaient dans les pépinières ont été interdites à la vente mais elles sont de retour puisque voilà on
c'est
a
quoi
des...
le feu
le feu bactérien c'est une maladie qui s'attaque à toute la famille des rosacées et dans les rosacées vous avez pas mal d'arbres fruitiers qui font partie de cette famille là donc comme ça servait plus ou moins de vecteurs de transmission, on les avait éliminés.
D'accord.
Les aubépines qui sont une grande famille, je crois qu'il y a près de 200 individus, et dans les aubépines, il y a des aubépines à fruits comestibles, mais qui sont d'assez grosse taille. On en trouve sur les marchés en Italie, dans certains endroits, et Et on en trouve aussi en Espagne. Ça s'appelle Crataegus, j'aime bien Crataegus. Et c'est, ça peut être un bon plat si vous avez un terrain qui est qui n'est pas très humide et qui est un peu ingrat. Ça pousse bien, voilà. Et puis le fameux Eleanus. Alors là, par contre, il va falloir sortir les cisailles, mais l'Eleanus qui pousse très très bien parce qu'il il fabrique sa propre azote en prenant l'azote du sol et en la piégeant dans ses racines. Il a pas mal d'avantages puisqu'il il fleurit et il a une floraison très très odorante, bien que discrète au mois de novembre. Et après, il va fabriquer des genres de petites olives qui pourront servir de nourriture aux oiseaux. Et puis comme la plante est dense, les oiseaux se réfugient dedans. Moi j'ai une amie qui a une haie là, ils sont heureux comme tout là dedans. Voilà.
Alors bien sûr il y en a d'autres, Yannick, Valérie, mais le temps qui nous est compté malheureusement est largement épuisé. Merci beaucoup pour tous ces conseils de haies qui favorisent les oiseaux. Ne soyons pas égoïstes, ça fait aussi partie des choses. Il faut pouvoir aider la nature, parce que ce n'est pas en aseptisant tout que...
Voilà, et si vous voulez avoir des renseignements complémentaires, vous pouvez aussi aller voir du côté de Puy-d'Arieux, où une association qui s'appelle Arbres et Paysages milite pour les mélangers favorables à la biodiversité. Et bon, même si vous n'achetez pas chez eux, vous aurez des renseignements. C'est toujours intéressant d'avoir d'autres informations et puis de voir à quoi ressemblent les arbustes en vrai.
Voilà. Et puis Puy-d'Arieux, ça se trouve pas très loin de Trie-sur-Baïse. Voilà, on prend la direction de Trie-sur-Baïse et on tombe sur Puy-d'Arieux. Il y a un très beau lac. C'est magnifique.
Voilà, une réserve d'oiseaux et dont certains oiseaux qui maintenant hivernent chaque année, alors qu'avant c'était des oiseaux migrateurs. Et qui se sont sédentarisés. Donc, on vous propose aussi des journées d'observation. C'est magnifique.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Annick Valérie. On s'arrête là. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, puisque nous allons parler du potager vivace. Voilà.
Voilà.
Exactement. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Présence à Toulouse, 97.9.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. City that never sleeps, and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues. make a brand new start of it. In old New York. And if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York, New York, New York.
Radio Présence à Tarbes et Lourdes, 96.
Radio Vatican,
le journal,
le journal.
Jubilé des jeunes, les groupes de pèlerins écument les rues de Rome au rythme des